que soit il n'aime pas Maxime Larouche ou il préfère Denis Gravel à nous. Mais il a somme toute respecté son engagement. Alors que le maire Bruno Marchand se joint à nous, on a tellement de questions pour le maire. Monsieur Marchand, bonjour.
Salut! Non, j'aime beaucoup Denis, mais c'est vraiment plus une contrainte qui m'empêchait de me déplacer vers vous aujourd'hui.
Fait que c'est pas personnel, là. C'est pas Véro ou moi, là, on est correct?
Non, il y a rien, il y a vraiment... Non, même si ça se trouve au contraire, je serais encore plus allé.
Non, oh, gars, il essaie d'être gentil.
On va mettre ça dans notre petit page en arrière, puis on va garder ça comme argument pour la prochaine fois. Monsieur Marchand, on va tomber tout de suite dans nos sujets parce qu'on en a quand même pas mal. On s'en doutait que ça s'en venait vers là, mais cet après-midi, on a eu confirmation de la grève des employés de maintenance du côté du RTC. Donc, le jeudi, le vendredi et une partie de samedi, pas de service d'autobus. On a l'impression que c'est donc bien difficile de s'entendre avec les syndicats ces temps-ci.
Bien, ça dépend. À la Ville, vous voyez, on a beaucoup d'ententes qui se sont concrétisées avec différents syndicats. Il en reste à conclure, mais il y a beaucoup d'ententes qui se sont conclues. Avec le RTC, il reste effectivement ce syndicat-là dont vous parlez, qui a décidé de faire la grève. Moi, je trouve ça plate que ces conséquences-là, ce soit les citoyens qui les vivent, là, mais il faut laisser aller la négociation. Il n'y a pas le choix. C'est ça le cadre du jeu, malheureusement.
Le syndicat qui accuse carrément la partie patronale de ne pas avoir mis l'énergie qui était nécessaire pour régler le dossier, alors que, bon, ça fait quand même un certain temps que tout ça se déroule.
Ben oui, mais ça, c'est un classique. Je vais pas parler de ce cas-là parce qu'il se déroule encore, il est en négociation. Ce que je souhaite, c'est que les citoyens aient le moins de conséquences possibles. 2 jours sans service, 2 jours de semaine, jeudi, vendredi. Vous avez raison, samedi matin, là, pour la reprise, l'entretien et la préparation de la flotte. C'est sûr que ça va avoir des conséquences, puis ça, c'est malheureux. Idéal.
Claude Villeneuve est sorti dans les dernières minutes en disant qu'on fait face à un manque flagrant de leadership de votre part, un mot leadership qui a été rendu populaire par sa mamade dans les dernières semaines. On dit que vous êtes incapable de négocier pour éviter que les citoyens subissent des bris de service. Qu'est-ce qu'on répond à Claude Villeneuve?
Ben, est-ce qu'on parle des pompiers? Est-ce qu'on parle des cols blancs? Est-ce qu'on parle des cadres? Est-ce qu'on parle des professionnels? Est-ce qu'on parle de toutes les ententes qu'on a négociées?
Non, mais c'est vrai que dans les derniers temps, on a eu des problèmes avec les cols bleus. Il y a des services aux citoyens qui ont été mis sur pause alors qu'on était à l'aube de la relâche. On l'a vécu avec la bibliothèque alors qu'on devait l'ouvrir en grande pompe. On le vit là avec le RTC. Fait que ceux qui ont un impact directement sur les citoyens, on dirait qu'on le voit beaucoup plus, on le perçoit beaucoup plus.
Ben oui, mais si vous incluez les alliances ou les contrats qu'on avait signés avec les syndicats, je pense que c'est au-dessus de 18. Alors, il y en a une majorité qui a été signée, il y en a une majorité qui avance, il en reste quelques-uns. C'est tout à fait faux, là. La plupart, vous n'en avez pas entendu parler. Avec l'École bleue, il y a une entente qui va être déposée pour voir ce que l'École bleue en pense dimanche. Ils vont voter là-dessus. On s'est entendu avec les pompiers, les cols blancs, les professionnels, les directeurs. Il y en a beaucoup d'ententes qui ont été faites. Après ça, ben, ça peut être deux pour danser. Il y a des syndicats avec qui la négociation se poursuit.
Dans le cas des employés de maintenance, il y a un impact direct au service à la population. On sait que depuis quelques années, on ne considère plus les services du RTC comme étant un service essentiel. Il y avait une manifestation aujourd'hui de syndicats qui s'oppose au projet de loi 89 qui permettrait au gouvernement d'avoir un peu plus d'impact sur justement ce qui devrait être offert comme service. C'est quoi votre perception de cette loi-là? Est-ce que pour vous, ce serait un outil qu'on pourrait utiliser quand justement les choses se corsent?
Ben oui, certainement. Maintenant, je vais laisser les parlementaires en débattre, mais c'est sûr qu'à mes yeux, puis je l'ai déjà dit dans le cadre de d'autres négociations au RTC, pour moi, le RTC est un service essentiel. Que des gens ne soient pas capables de se déplacer parce qu'il n'y a pas de transport collectif, ça devrait être soumis à la loi sur les services essentiels et qu'on puisse faire en sorte qu'il y ait une entente pour offrir des services aux gens. Ça, pour moi, c'est quelque chose qui devrait être bonifié. Après ça, est-ce que c'est le bon projet de loi? Je vais laisser le ministre et les syndicats en débattre, mais c'est sûr qu'il y a un enjeu. Puis vous savez, pour revenir sur M. Villeneuve, c'est facile. Ah, le maire n'a pas réglé cette convention collective-là. Pourtant, c'est le premier à dire, il y a trop d'argent qui va au RTC. C'est le premier à dire, je suis contre qu'on donne de l'argent au RTC. Je suis contre la taxe d'immatriculation. Je suis contre. Alors, M. Villeneuve parle des deux côtés de la bouche. D'un côté, il voudrait qu'on règle tout à la proposition des syndicats. Et d'un autre côté, il voudrait que ça coûte moins cher, couper dans le gras, donner moins d'argent. C'est pas possible. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on travaille avec la capacité de payer les citoyens, puis on essaie de trouver compromis. Dans beaucoup d'ententes avec les employés, c'est ce qu'on a trouvé, c'est ce qu'on a fait. Puis ça démontre notre capacité à s'entendre. Il y a quelques ententes qui restent à faire, puis on va espérer qu'elles se fassent le plus vite possible.
Du côté de cette sortie-là de Claude Villeneuve, on voit qu'il semble montrer les dents un petit peu plus dans les derniers jours. On l'a vu y aller de sortie aussi hier, autant contre vous que contre Sam Ahmad, qui étrangement, Sam Ahmad n'est pas là au conseil de ville, mais c'est quasiment de lui qu'on parle le plus. Est-ce qu'on sait que la campagne électorale, là, déjà au mois de mai 2025, est déjà bien lancée?
En tout cas, vous avez raison de dire qu'il y a des gens qui lancent des flèches à qui mieux mieux. Je pense que pour certains, la campagne est déjà lancée. Vous avez raison de le dire.
Est-ce que c'est votre cas?
En même temps, pardon?
Est-ce que c'est votre cas?
Bien, certainement en partie, là, parce que tu es entraîné, veux pas, tu es obligé de répondre. Il y a quelqu'un qui t'attaque, tu réponds. Fait que là, nécessairement, tu t'embarques dans une joute électorale. En même temps, je veux pas que ce soit le cas de mon quotidien. Je suis payé pour être maire, je suis payé pour gérer la ville. C'est ce que je fais. Il y aura une campagne qui va commencer officiellement à mi-septembre. Je comprends que d'ici là, les esprits s'échauffent. Moi, ce que je veux, c'est continuer à contribuer à la ville. Puis oui, de temps en temps, tu sais, on a annoncé, on est rendu avec 7 candidatures d'annoncer. On est sûr qu'il y en a annoncé de plus. Oui, ça fait partie de ce qui est à faire. Il y a de la campagne qui embarque dans le quotidien. Mais moi, je suis payé par la ville, puis je veux gérer la ville, puis je veux offrir la meilleure ville aux citoyens. Puis la campagne arrivera, je l'espère, en temps et lieu, mais pas trop tôt.
Je ne sais pas si ça a un lien justement avec cette campagne fantôme qui est un peu là, mais plutôt aujourd'hui, vous avez présenté ce site-là qui permet de voir les données de mobilité active. Pour vous citer à peu près, vous voulez démontrer aux détracteurs ou aux opposants que ce que vous avez placé comme, entre autres, tout ce qui est Vivacité maintenant, tout le réseau de transport fonctionne, qu'il y a un besoin pour ça. Ce n'est pas une manière justement de répondre à certaines attaques qui ont été faites par rapport à ça?
Oui, c'est vrai, mais ça n'a pas de lien avec la campagne. Ça fait 6 mois qu'on fait des annonces où les oppositions disent « Ah, c'est à cause, c'est pré-campagne. » Si depuis 6 mois, on n'avait pas le droit de faire d'annonce, ça veut dire qu'on a des mandats de 2 ans, on a des mandats de 2 ans et demi, c'est ridicule. On a déjà des mandats de 4 ans qui sont courts. Les citoyens s'attendent à ce qu'on gère la ville. Alors, ce matin, ce qu'on a annoncé, c'est que c'est rendu accessible et transparent. Comme tout ce qu'on fait, on donne les données aux citoyens, ils peuvent aller le voir sur le site de la ville. Et ils peuvent voir qui utilise, combien de personnes utilisent. Il va y avoir au final, dans quelques semaines, 12 lieux où ils vont pouvoir observer quels sont les transits qui sont faits. Ce matin, on a donné l'exemple de Chemin Sainte-Foy. Donc, Chemin Sainte-Foy, il y a le corridor Vivacité, vous l'avez bien dit. Et on a pu témoigner aux gens que selon les journées, puis le vrai décompte a commencé. Les capteurs ont été installés au début avril, mais ça prend un mois pour être effectif. Alors, les vrais décomptes que les gens vont voir, c'est fin avril et toutes les semaines qui suivent. On a pris une journée type et on a démontré aux gens que sur 100 % de déplacements, il y en avait 54 % le 5 mai. Puis il y a des journées que c'est pire, il y a des journées que c'est mieux, c'est variable. Là, je ne suis pas en train de dire que c'est toutes les journées. Mais 54 % se sont faits en mobilité active ou en transport collectif. Alors, le but ici, ce n'est pas de dire « Ah, les gens ne prennent pas l'auto ». Non, non, non. Il y a des gens qui prennent l'auto. Puis vous savez, chaque fois que je suis allé vous voir, je pense que j'en ai parlé. C'est normal, c'est correct, il le faut. Il y a des gens qui ont besoin de l'auto, puis c'est parfait. Mais ça vient un peu dire aux gens, arrêtez de penser que ceux qui prennent le vélo ou les piétons ou l'autobus, ce sont un petit nombre marginal d'hurluberlus. Dans ce cas-ci, c'est 54 % de gens qui ont utilisé d'autres moyens que l'auto. Alors, on peut-tu ensemble se dire, il y a plein de moyens. On est parfois cycliste, parfois automobiliste, on est parfois piéton.
Tout à fait.
On est parfois utilisateur du transport collectif. Et ce n'est pas un contre l'autre. Et plus on va être capable de viser cette mobilité variée-là, meilleure va être notre ville et plus riches vont être nos déplacements, puis surtout plus fluides.
On est d'accord que ça prend plusieurs manières de se déplacer, mais parmi ceux qui sont très vocaux encore aujourd'hui sur la piste cyclable dans le secteur de Sainte-Foy, puis l'ont été encore la semaine dernière, oui, c'est bien de voir que des gens se déplacent à vélo. Mais quand tu es un commerce de destination, que dans ton secteur, c'est la population qui est la plus vieille par rapport aux autres arrondissements de la ville de Québec, quand aller à vélo au restaurant pour eux autres, ce n'est pas une option, puis que les stationnements se font de plus en plus rare, on peut comprendre que certains restaurateurs soient inquiets malgré la popularité du déplacement.
Alors, l'inquiétude que vous nommez, elle est perceptuelle. Il y a des gens qui l'aperçoivent, c'est vrai. Cependant, quand on regarde les espaces de stationnement, il y en a plus qu'il y en avait. Dans ce secteur-là, il y en a plus qu'il y en avait. Ils sont moins tarifés, puis il y a une plus grande disponibilité. Le stationnement sur rue, là, dépendamment des périodes, c'est 20, 25, 30, 35 % d'occupation. Là. De la place, il y en a en masse. Le message qui est envoyé par certains commerçants, c'est de dire qu'il n'y a plus de place devant chez moi. Parce que c'est vrai que sur Chemin Sainte-Foy, il n'y a plus de place de se stationner. Mais tout autour, il y en a plein. On en a augmenté. Et ce qui est drôle, c'est que les gens, il y a des gens qui nous disaient aujourd'hui, ouais, mais moi, je vais aller au centre d'achat. Mais si vous allez au centre d'achat, vous allez marcher encore plus que si vous vous stationnez derrière la Caisse populaire dans Saint-Sacrement. Si vous allez au Costco le samedi, là, vous allez être stationné au bout du Costco, c'est la même affaire chez IKEA, là, vous allez marcher pas mal plus que ce que vous allez marcher dans Saint-Sacrement. Alors, les gens ont l'impression qu'il y a un peu une espèce de perception, il y a du stationnement, ça existe. Et savez-vous quoi? Les revenus des commerçants n'ont pas diminué, si on l'a prouvé. Est-ce que c'est à cause du corridor? Pas nécessairement. Il y a des gens peut-être qui dépensent plus, mais ce qu'on observe, c'est qu'il y a plus de monde sur chemin Sainte-Foy, plus de piétons, et ça aussi, c'est bon pour certains commerces.
Est-ce que vous sentez qu'il y a des commerçants qui ont peut-être juste une dent contre Bruno Marchand puis qui veulent se servir de cette situation-là pour dire ce que Bruno Marchand fait, c'est de la merde, puis moi, je vais me servir de ça pour dire à tout le monde que c'est de la merde?
Non. Non, votre question est bonne, mais non, je pense pas. Je pense plus que c'est des commerçants qui sont inquiets, comme on vient de le dire. Il y a de l'inquiétude, il y a des gens... C'est vrai qu'il y a des gens... Il y a des études scientifiques qui témoignent de ça, OK? Ça, on vit ça partout dans le monde. Ils ont vécu ça à Montréal, mais ils ont vécu ça à Sydney, ils ont vécu ça à New York, ils ont vécu ça à Vancouver. Le classique, c'est que la personne qui n'est pas contente du stationnement, quand elle rentre dans le commerce, elle dit quoi? Elle le dit. Elle fait « Hey, ça a été compliqué de me stationner. » La personne qui est contente, que ce soit parce qu'elle est venue en auto, ou qu'elle est venue à pied, ou qu'elle est venue en vélo, elle le dit pas. Si vous êtes satisfait quand vous rentrez dans le stationnement, vous ne dites pas « En tout cas, ça a été long de parquer, hein? » Mais non, tu t'attendais à ce que ce soit le temps X, ça a pris ce temps-là, tu rentres, tu es heureux, tu achètes.
Non, mais tu auras aussi les clients qui vont choisir simplement de changer leurs habitudes et ne se présenteront pas, ils ne seront pas vocaux ni d'un bord ni de l'autre.
Ça, c'est vrai, mais quand vous regardez les dépenses dans le secteur, elles n'ont pas diminué, elles ont augmenté. Est-ce qu'elles ont augmenté à cause du corridor vivacité? Je ne suis pas en train de dire ça. Ça peut être l'inflation, ça peut être d'autres raisons. Mais on ne peut pas nous dire, au global, des dépenses du secteur, que ça a diminué. Il y a peut-être des commerces, ça a diminué. Mais ce n'est pas tous les commerces. Il y a des commerces, ça a augmenté beaucoup. Alors, je fais juste dire, les gens ont de l'inquiétude, mais au final, ce n'est pas vrai qu'il y a juste des mauvaises nouvelles. Il y a des bonnes nouvelles. Il y a des nouveaux commerçants. Il y a un nouveau restaurant qui va ouvrir à la place du Saint-Sacrement qui s'appelle Ambre, un excellent restaurant qui a été reconnu par le guide Michelin la semaine passée, bien, il s'en va sur chemin Sainte-Foy en connaissance de cause, puis il est content d'aller là, puis il va avoir du monde.
Je veux peut-être qu'on revienne sur les pistes cyclables. Puis je vous amène un peu ailleurs. Là. C'est une situation qu'un collègue nous a décrit la semaine passée où il parle des pistes cyclables, entre autres dans Limoilou, dans son cas. Donc, il nous disait que les lignes étaient complètement inexistantes, même si les pistes sont ouvertes. Puis il nous disait que ça donne des drôles de situations où les jeunes familles, les enfants marchent là, mais les voitures pensent qu'ils ont deux voies. Puis c'est pas le seul endroit où c'est comme ça. Pouvez-vous peut-être, commenter ça, mais comment on fait pour régler ce type de problème-là? Parce que si on se met à prioriser de plus en plus le vélo, entre autres, bien, c'est parce qu'il faudrait que les choses soient faites comme il faut, parce que ça peut mettre quand même la sécurité de ces jeunes familles-là en jeu.
Oui, c'est très juste. L'enjeu qu'on a, là, c'est plus un enjeu hivernal. C'est qu'avec le grattage hivernal, ça enlève la peinture au sol, ça enlève le marquage, et on ne peut pas le refaire tant qu'on n'a pas une température assez douce pour faire en sorte que la peinture colle. C'est vraiment juste ça l'enjeu. Fait que le marquage va être refait dans les prochaines semaines.
Mais on fait quoi à ce moment-là, M. Marchand? Parce que ça fait plusieurs fois qu'on en jase de ça, là, du marquage. Et même des rues aussi, là, on sait que la peinture colle pas.
On n'est pas notre premier rival.
Non, mais c'est ça. Est-ce qu'on change la façon de faire? Est-ce qu'il y a des solutions? Est-ce que c'est jasé, ces affaires-là? Ou est-ce qu'on laisse la piste cyclable fermée jusqu'à ce que les lignes soient là pour éviter ces enjeux de sécurité-là?
Ben, non, on essaye de trouver les solutions. Est-ce qu'on peut trouver des marquages, par exemple, qui passent l'hiver? On espère que la technologie va nous permettre d'avoir. C'est pour ça qu'on installe des bollards qui, eux, sont pas tributaires du marquage. C'est pour ça qu'à des endroits, on installe des panneaux. Donc, on essaie de mieux le communiquer. Vous avez tout à fait raison de dire que ça crée des situations où il y a des risques et on souhaite les éviter. Et on attend les belles journées de météo pour marquer le plus vite possible. Mais il reste qu'on vit au Québec. On gratte l'hiver. Et oui, dans plusieurs cas, pas juste dans le cas des pistes cyclables. C'est le cas. J'ai vu dernièrement une route deux voies où il n'y avait plus la ligne du milieu, la ligne assurée où les gens peuvent...
C'est très fréquent,
oui. Ben oui. Puis là, ben, la personne, elle pense qu'il y a juste une voie, puis elle conduit entre les deux. Fait que c'est pas juste pour le vélo, c'est pas juste pour un type d'utilisation. C'est souvent ce qu'on vit au printemps. Et dès qu'on va le pouvoir, on va marquer. Tant mieux si la technologie nous permet d'avoir des peintures qui vont demeurer plus longtemps.
La sécurité routière semble être vraiment, encore une fois, une des priorités dans votre mandat actuel. Ouais. Dans plusieurs secteurs résidentiels de la Ville de Québec, on a fait le choix de descendre les limites de vitesse, descendre ça à 30 km/h, ce qui est fort louable. Le défi demeure encore et toujours de faire respecter ces limites de vitesse-là. Puis il y a quelques semaines à peine, on avait la conversation avec des auditeurs, plusieurs messages de gens qui sont rentrés en disant « C'est super le fun qu'on ait mis des pancartes dans mon quartier, mais malgré tout, même dans des secteurs où il y a des écoles, il y a beaucoup de gens qui dépassent ces limites de vitesse-là, qui sont dangereux, même si ce n'est pas des coins qui sont considérés comme accidentogènes. On ne veut pas attendre ça. Puis je veux amener à votre attention, parce qu'on a déjà eu la conversation avec vous, je me souviens très bien que vous aviez dit aux gens, à ce moment-là, c'est important de communiquer avec la ville, c'est de faire les démarches, on va voir ce qu'on pourra mettre en place. Il y a un auditeur qui a fait exactement ce que vous avez demandé. C'est adressé à la ville. Lui, son secteur, c'est le secteur derrière les cinémas à Beauport. Sa rue s'est transformée en espèce de rue de transit, si on veut, pour éviter certains secteurs plus denses en frais de circulation. Il a dit que ça prendrait des panneaux d'arrêt, un dos d'âne ou quoi que ce soit. Du côté de la ville, on a dit, bien, on est allé voir. La seule chose que ça prendrait pour diminuer la vitesse, c'est de la surveillance policière. L'auditeur en question a fini par s'adresser à l'Ombudsman parce qu'il n'a jamais vu de surveillance policière. On lui a répondu, bien, notez les heures quand vous voyez des événements puis appelez le 3-1. Vous comprendrez que pour des gens, c'est décourageant. C'est quoi la marche à suivre?
Alors, est-ce qu'on a le nom de la rue? Avez-vous le nom de la rue?
J'ai pas le nom de la rue, j'ai le numéro de dossier que je pourrais vous faire parvenir, là, okay, mais ça s'est rendu jusqu'au bureau de l'Ombudsman.
Faites-moi parvenir via mon attaché de presse le numéro de dossier, puis on va retrouver ça. Je présume que c'est un numéro de dossier qui est lié au 3-1, on va aller voir c'est quoi. Mais, bon, pour répondre à la question quand même, sans juste la reporter, là, on va annoncer en juin, on a une expérience de seuil de ralentissement qu'on a mis dans des rues. Une dizaine de rues à Québec et ça a super bien marché, ça a baissé la vitesse. Alors oui, il y a de la surveillance policière nécessaire. Vous comprenez qu'on ne peut pas mettre des policiers dans toutes les rues. Ceux-ci se déplacent, font de la surveillance. Et il va en avoir au printemps et à l'été parce que c'est important. Et je suis sûr que ce que le citoyen dit, c'est vrai. Il y a des gens qui prennent les rues de quartier comme des pistes de course.
Les textos sont en train de pleuvoir par rapport à ça, là.
Pardon, je n'ai pas compris.
Les textos sont en train de pleuvoir par rapport
à
ça.
Alors, on le regarde et on va annoncer la mise en place de seuils de ralentissement. On a ajouté des argents au budget pour en mettre dans plusieurs arrondissements, des seuils de ralentissement qui ont démontré qu'on était capable de baisser la vitesse dans les rues et ajouter à de la surveillance policière, ajouter à de la signalisation. Mais je ne veux pas créer d'attente. Ça ne peut pas être fait dans toutes les rues pendant un été. On s'en va vers quelque chose qui va ajouter de la sécurité routière, qui va ajouter de la surveillance. Il reste quand même qu'à travers tout ce qu'on fait, on ne peut pas réparer une ville de 70, 80, 90 ans de construction. Et il y a quelque chose aussi, on doit tous se sensibiliser. Je vais vous donner l'exemple des écoles. Il y a deux personnes autour des écoles. Il y a le parent qui va porter son enfant, puis il y a le parent qui est allé porter son enfant. Ce qu'on observe, c'est que ceux qui dépassent la limite, souvent, c'est le parent qui est allé porter son enfant, qui il y a 10 minutes était un parent, puis là, maintenant, il est rendu un travailleur. On a une responsabilité collective, là. C'est des quartiers résidentiels. Il n'y a personne qui veut une piste de course dans son quartier résidentiel. Alors, on va prendre tous les moyens nécessaires, mais je m'attends qu'on ait cette sensibilité-là entre nous. On prend des risques avec la vie d'enfants, avec la vie de jeunes et moins jeunes, puis c'est inacceptable.
Est-ce qu'une des solutions, ça serait justement de cacher des policiers puis de les inviter à porter le pantalon camouflage? C'est ça que je pense que j'ai compris dans les dernières heures. Je pense que c'est peut-être ça qui va permettre
les mettre en mode camo, là.
Ouais, ben c'est je pense que c'est pour ça. On dit ça, on dit que c'est un moyen de pression, mais c'est un moyen d'aider la ville.
Oui, c'est ça. Non, ouais, je pense pas que c'est pour aider la ville. Je pense pas que les policiers qui font ça le font pour aider la ville. Sinon, je pense qu'ils le feraient pas. Non, c'est pas pour ça. C'est un moyen de pression, effectivement. La cause avec les policiers est en arbitrage. Là, fait qu'on va voir ce que l'arbitre va dire de qu'est-ce qu'il va statuer comme condition de travail.
Monsieur Marchand n'a pas eu l'opportunité de se reparler depuis que vous avez annoncé le moyen de récupérer nos fameux billets une fois qu'on a payé la taxe à l'immatriculation. En fait, on est à 10 jours de cette journée événementielle où les gens devront se diriger vers le centre de foire. Puis, on a parlé en masse, les gens qui auront payé leur immatriculation en date d'aujourd'hui doivent s'inscrire sur Internet, doivent se diriger du côté du centre de foire avec une case horaire pour aller récupérer 8 billets gratuits. C'est le samedi 31 mai. La même journée, il y a le Monster Spectacular au Centre Vidéotron où je suis allée voir tantôt, c'est presque plein. C'est la méga bibliovente au centre de foire. Est-ce qu'on avait pensé à tout ça avant de se dire, hey, on va trouver une manière de redonner un peu à ceux qui paient la taxe sur l'immatriculation?
Oui, puis on n'avait pas toutes les réponses. Cependant, ce qu'on réalise, les gens nous disent que ça serait simple de faire autrement. Ce serait possible de faire autrement, ce ne serait pas simple. Je vous explique. L'idéal, ce serait qu'on ait une entente avec la SAAC, puis que dès que les gens payent leur immatriculation, paf, ça leur est envoyé, c'est déposé. Pour des raisons, SAAC, Ville de Québec, c'est compliqué.
Je comprends tout à fait. On a vu à quel point la SAAC, c'est compliqué. Mais d'un autre côté, tant qu'à demander aux gens d'aller s'inscrire sur le site plutôt que de leur demander, paradoxalement, de se déplacer en voiture dans un secteur achalandé. Ça n'aurait pas été plus simple de donner un code QR, un code promo à utiliser avec l'application ou à présenter dans un centre de service qui vend habituellement des billets pour le RTC?
Bien, ça, c'était pas possible. Mais l'idée est bonne, là, puis ça veut pas dire qu'on va pas essayer de la mettre en place pour les prochaines distributions. On n'a pas inventé la 8e merveille du monde. Je suis tout à fait d'accord avec vous autres.
Ça fait un peu, on a promis de quoi, puis il faut trouver comment le faire, là.
Oui, non, mais vous avez raison. On a promis de quoi et il faut le faire. Maintenant, c'est compliqué avec la question de la gestion numérique des différents partenaires, la ville, la SAAC, la combinaison de ça, la gestion de la sécurité informatique, la gestion de la sécurité des données, la transmission des données. Ces grandes entités-là n'ont pas le droit de se partager des données par respect pour la vie privée des gens. Fait que oui, au final, là, on est rendu, on va approcher, je pense qu'on a dépassé le 3500 de mémoire là, de gens qui se sont inscrits. Ce n'est pas la seule journée, il va y en avoir d'autres. Puis on va avoir une proposition qui va faire que les gens vont pouvoir venir chercher leur billet à d'autres moments, mais aussi on va avoir une proposition où les gens vont pouvoir en bénéficier et on va améliorer le tout. C'est une première, c'est pas une dernière, c'est pas parfait, j'en suis tout à fait d'accord.
Pensez-vous vraiment que ça va fonctionner, M. Marchand?
Ben oui, on va avoir. Quand vous dites que ça va fonctionner.
Ben les gens vont aller les récupérer.
Oui,
c'est
un peu la question. Je pense qu'on va avoir. Pour la première journée, il y a 5000 places. Je pense qu'on va être autour de ça. 5000 personnes vont aller les récupérer. Et je pense que dans les journées qui vont suivre, on va ajouter des choses et les gens vont être capables de les récupérer, oui.
Parce qu'il y a des gens... Il y a des gens qui vous accusent un peu parmi les citoyens, les textos qu'on a reçus au fil des dernières semaines, de savoir un peu ce que vous faites dans la mesure où on promet cette gratuité-là de billets, sauf qu'au final, les gens les récupéreront pas, fait que l'argent reste un peu dans vos coffres. Si vous me suivez,
Oui, mais c'est pas... Non, je comprends pourquoi les gens disent ça, là. Puis de l'extérieur, j'aurais probablement la même perception qu'eux, parce que c'est vrai que la façon de distribuer, c'est pas la meilleure. On en a étudié bien d'autres, je vous jure. Là. Puis s'il n'y a pas d'enjeu là-dedans ici de vouloir économiser, il n'y a pas de coût à ça. Là,
ben, j'imagine qu'il y a des coûts quand même à cette organisation-là, par exemple.
Alors, oui, mais à l'opération, oui, mais savez-vous quoi? Ça coûterait pas mal moins cher si on le déposait dans un compte en ligne ou avec un code QR, comme vous mentionniez. Là. Ça serait pas mal moins coûteux si c'était ça. Si ça avait été possible, c'est ça qu'on aurait fait. Alors, qu'on donne 8 billets, moi, je voulais les donner, on a insisté. On a insisté, même si c'était compliqué, pourquoi? Pour que des gens puissent les avoir. Puis on va améliorer les choses. On va trouver des nouvelles formules. On va travailler avec nos partenaires pour faire en sorte que ça soit de plus en plus simplifié. Mais c'est une première étape. Je tenais à ce qu'elle soit faite, puis on va apprendre de ça.
Ça va coûter combien? Est-ce qu'on sait à peu près là, une couple de 100 000 piastres, mettons, l'opération pour donner les billets?
Non, moins que ça. On n'a pas le prix exact. On va pouvoir vous le dire après, mais ça va être moins que ça. Mais les 8 billets, quand on les donne, il n'y a pas un coût direct, là. Mm-hmm. D'avoir 8 personnes de plus dans l'autobus, on ne met pas un autobus de plus en service. Fait que c'est une occasion de tester le service pour ceux qui ne le prennent pas ou de le prendre pour ceux qui le prennent, d'économiser sur leur billet. Fait qu'il y a pas, il y a un coût d'opportunité. Il y a peut-être des gens au RTC qui vont moins acheter de billets uniques, par exemple. Mais ce n'est pas direct. C'est pas à chaque fois qu'on donne 8 billets, c'est 8 billets de moins de vendus. C'est des gens qui ne l'utilisaient pas qui vont aussi l'utiliser. Fait que c'est pas un coût direct, mais c'est quelque chose auquel moi je tenais. Puis on y va, puis on fonce. Puis vous savez, il y a des gens qui m'avaient dit de ne pas le faire. Il y a des gens qui m'avaient dit qu'il ne faut pas faire ça, ça va être compliqué. Oui, mais ça va être compliqué. J'aime mieux qu'on le fasse. J'aime mieux que 5 000, 10 000, 15 000, 20 000 personnes en bénéficient que de l'avoir fait à zéro. Il y a quand même 15, 10, 20 000 personnes qui vont en bénéficier au moins.
Parce qu'il y a d'autres textos qu'on recevait dans les dernières semaines ou conversations qu'on a eues avec les auditeurs qui disaient, bien là, rendu là, tu sais, c'est quoi, 3,75 un billet pour prendre l'autobus? Fois 8 billets, on est à peu près à 30$, mettons, là, qu'on arrondit ça.
On avait dit
que
c'était l'équivalent de 26$. Oui.
Bon, à peu près, on se comprend, je pense. Pourquoi pas avoir diminué ça tout simplement de la taxe à l'immatriculation rendue là? Tu sais, les gens qui vont vouloir prendre le transport en commun vont le prendre de toute manière.
Oui, mais OK, mais c'est parce que ça n'aurait pas été diminué, là. L'argent qu'on utilise pour la taxe d'immatriculation pour offrir de nouveaux services est utilisé. Ces 8 billets-là, c'était en surplus. On ne se sert pas de ça pour payer les 8 billets. Là. Les 8 billets, c'était en surplus. Fait que le choix qu'on avait, c'était de ne pas le faire, de continuer à faire tous les autres services qu'on ajoute pour améliorer la périphérie avec la taxe d'immatriculation, ce à quoi je crois. Et ce à quoi je crois pour les prochaines années, à améliorer le service dans la Couronne Nord, j'y crois fondamentalement. Et l'autre option, c'était de ne pas faire les billets. Mais moi, j'aimais mieux faire quelque chose d'imparfait, d'offrir les billets, même si c'est imparfait. Vous avez tout à fait raison, là. Je vous donne raison. Mais au moins de le faire, parce que ça s'ajoute.
Monsieur Marchand, dans les dernières semaines, il y a eu une sortie qui a frappé l'imaginaire de la part de la mairesse de Longueuil, Catherine Fournier. À l'effet qu'en 2020, changer un feu de circulation coûtait 500 000 $ et que maintenant, on était à 1 million de $ à cause des différents processus. C'est bien au-delà de l'inflation. C'est ce qu'elle soulignait. Puis, je sais qu'aux assises de l'UMQ, ça fait jaser beaucoup de maires. Ça coûte combien changer un feu de circulation à la Ville de Québec?
250 000. au plancher.
Fait qu'il n'y aura pas de mauvaise surprise si nous, on regarde nos infrastructures et nos manières de faire à un moment donné.
Non, mais ben, il n'y aura pas de mauvaise surprise. Quand je vous dis 250 000, ça dépend du contexte. On en a qui coûtent plus cher que ça, là. Mais dépendamment si c'est dans un site patrimonial, dépendamment s'il y a des partenaires comme Hydro-Québec ou du filage en dessous à Bell ou à d'autres partenaires à Hydro-Québec, il y a vraiment des enjeux où Mme Fournier soulève un enjeu vraiment intéressant. Puis on l'assiste à tous les paliers de gouvernement, mais on l'assiste aussi, les gens l'assistent. Le coût d'entretien d'une voiture maintenant au garage, c'est fou comment c'est plus cher qu'avant. Là. Il faut pas avoir 75 ans pour avoir réalisé que dans les 5-10 dernières années, c'est fou le prix. Mais c'est quoi? Oui, c'est de l'inflation. Oui, c'est des coûts de main-d'œuvre. Oui, c'est des pièces qui coûtent plus cher. C'est vraiment, vraiment, vraiment compliqué. Puis la réflexion est intéressante. Il n'y a personne là-dedans qui triche. Il n'y a personne là-dedans qui s'en met dans les poches. Mais il y a des coûts qui ont augmenté de façon faramineuse. Et ça fait en sorte que les capacités de payer des villes, des gouvernements, sont vraiment plus limitées et ça nous limite dans ce qu'on peut faire.
Il y a à peu près un mois de ça, vous aviez une rencontre fort attendue avec la ministre des Transports, Geneviève Guilbeault. Ça a duré 90 minutes. C'est quand la prochaine?
Bien, d'abord, la prochaine, elle va avoir lieu, je suppose, bientôt, mais c'est pas moi qui ai le contrôle de l'agenda. Mme Guilbeault a annoncé qu'elle présentait un des corridors qu'elle choisirait pour le troisième lien. Fait que on attend de voir en fonction de ça. Là. J'ai déjà revu M. Julien depuis. Mme Guilbeault, ça devrait être sous peu. On va voir, on les laisse contrôler leur calendrier pour leur présentation de ça. Je n'ai pas de date, mais c'est, je présume ce qui va être la prochaine étape.
Vous avez glissé le nom de M. Jonathan Julien.
On ne le voit plus, nous autres. Vous l'avez vu? Nous autres, on ne le voit plus.
Nous autres, on l'a vu au crédit, à l'étude des crédits à l'Assemblée nationale, où il semblait dire qu'à Québec, tout allait bien dans les investissements en infrastructures, que c'était des sommes records. Ça a été quoi votre réaction d'entendre ça, alors que de gros projets d'infrastructures qui étaient fort attendus dans la région de Québec, qu'on parle de la tête des ponts, qu'on parle des voies réservées, du garage Newton ou encore dans notre secteur ici à Le Bourgneuf du pont d'étagement, nous, on se questionne vraiment à savoir, ça va-tu si bien que ça dans les investissements?
Hey, moi, je leur ai posé la même question. Quand je suis sorti de là, j'ai dit le minimum, c'est qu'on aille des voies réservées et qu'on aille le plan de la CDPQ Infra qui soit faite sur toutes les phases pour rejoindre la Couronne Nord, pour rejoindre Vanier, pour rejoindre Le Bourgneuf, pour rejoindre Charlebourg dans le Nord, pour rejoindre Beauport, pour rejoindre le secteur ouest via le Redville, l'aéroport. Bon, tout ça, pour moi, c'est fondamental. Et j'ai renommé que ce que je vous avais dit, c'est que c'est pas moi qui est en contrôle de ça, mais il faut que les citoyens aient un plan. Quand on parle de l'échangeur Le Bourgneuf, vous avez tout à fait raison de le nommer, je ne peux pas vous répondre, je ne sais pas c'est quoi le plan. Alors, on a entendu, il est encore là. Cet échangeur-là, il est important. Je comprends que le gouvernement a des contraintes financières, je le comprends très bien. Mais ce que je souhaitais, parce que ce que je leur ai partagé, OK, mais on dit quoi maintenant, citoyen? Il va être fait dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans? C'est quoi le plan qu'on a pour cet échangeur qui est une pièce maîtresse de la circulation dans le secteur? Vous avez raison de le nommer. C'est la même chose pour la tête des ponts, vous avez tout à fait raison. Il arrive quoi avec la phase 2? Bien, moi, je pense que les citoyens, ils veulent savoir c'est quoi les délais, c'est quoi les échéanciers. Puis bien, le gouvernement, présentement, jongle avec ça. Fait qu'on va leur resoumettre notre proposition parce que moi, je pense qu'il y a beaucoup de citoyens qui nous en parlent, puis il y a beaucoup de citoyens qui veulent savoir, puis qui veulent avoir une échéance pour savoir quand ça va être fait.
Sam Hamad vous accuse souvent de manquer de leadership. Est-ce que du côté du gouvernement provincial, justement, en étant flou avec tout ça, on trouve qu'il y a un certain manque de leadership au sein de la CAQ?
Oh, moi, vous savez, ces attaques-là, je trouve que c'est des attaques creuses. Là. Manquer de leadership, là, ça veut dire tout et n'importe quoi en même temps. Fait que je ne dirai jamais de M. Villeneuve qui l'a dit souvent ou M. Hamad, c'est un classique.
Mais, vous percevez qu'il y a un manque de vision, par contre, pour la région de Québec de la part du gouvernement?
Moi, ce que je vous dis, c'est qu'ils nous disent que leur vision est claire par rapport à ça, bien, qu'on nous la présente et qu'on nous dise où on s'en va où sur 5 ans, 10 ans, 15 ans. C'est ça que les citoyens ont besoin d'avoir. Est-ce qu'il manque du leadership? Non, je ne suis pas prêt à dire ça. Maintenant, on a besoin d'avoir une vision. Moi, dans ce que j'ai fait en politique, j'ai toujours travaillé là-dessus. Je vous ai présenté les boulevards 2.0 pour améliorer la mobilité dans le Couronne Nord. Bien, je vous ai dit, voici, on a un plan sur 10 ans pour faire 20 boulevards pour améliorer la fluidité. On ne parle pas de pistes cyclables ici. Là. J'ai parlé des corridors vivacité. J'ai dit, voici le plan qu'on a sur 15 ans. Les citoyens sont à même de juger. Ils peuvent dire que ce n'est pas le bon plan. Ils peuvent dire qu'ils ne sont pas d'accord. Ils peuvent dire qu'ils n'en veulent pas de boulevard 2.0 sur le boulevard des Chutes ou sur Saint-Claude. Ils ont le droit. Mais ils savent où on s'en va sur 10, 15, 20 ans. Ils savent quelle est notre vision. Comment on va améliorer la mobilité dans le Couronne Nord? Comment on va améliorer la mobilité active? Comment on va faire pour faire en sorte de prendre soin de tout le monde? Après ça, ils ont un choix. C'est ce que je m'attends du gouvernement aussi.
En terminant, vous avez de nouveaux interlocuteurs sur le plan fédéral. Mark Carney, que vous avez rencontré à quelques reprises, et Joël Lightbound, qui est député dans la région de Québec depuis très longtemps, qui a maintenant un titre de ministre.
Oui. Ouais.
Dans ses premiers échanges avec les médias, il a refusé de s'engager formellement dans un financement fédéral à la hauteur de 40 % du méga-projet de tramway. Avez-vous eu des échanges depuis? Est-ce que vous trouvez que d'attendre un budget fédéral au mois d'automne, à l'automne, en fait, que ça repousse tout trop loin?
Bien, c'est ce qui est déjà convenu. Le fédéral nous avait dit, il n'y a pas d'argent, il n'y a plus d'argent dans cette banque-là, dans cette caisse-là pour les transports collectifs. Et il nous avait dit, puis c'est ce que M. Duclos avait dit, vous en souviendrez, bien, il va en avoir en 2026. Alors, nous, ce qu'on s'attend, c'est qu'il y en ait en 2026. Québec a sa part. Après ça, le gouvernement du Québec et Canada décideront à quoi va cet argent. Le projet de tramway avance. On a le plan financier complet. Mais oui, on a besoin de notre juste part, comme il y a eu ailleurs. Comme il y a eu ailleurs dans d'autres villes canadiennes, cet argent-là doit venir ici. Après ça, au gouvernement du Québec et du Canada de décider sous quelle modalité. Mais les libéraux nous ont promis des budgets nouveaux pour 2026. On s'attend à ça.
Monsieur Marchand, ça a été un plaisir. Merci pour votre temps. On espère vous revoir en studio.
Je vous promets que je serai de retour en studio. Je sais que ce n'est pas pareil à distance. Le son n'est pas aussi bon. Je m'excuse pour les auditeurs, là, vraiment. Aujourd'hui, c'est impossible, mais je serai là. Et on se revoit avant l'été, c'est sûr.
Merci Génial. D'avoir respecté votre engagement. Bonne journée, puis on se reparle dans le prochain mois.
Salut à vous trois, bonne fin de journée.
Salut, bye-bye.
Bruno Marchand, maire de Québec, qui a passé la dernière demi-heure avec nous autres. On va aller lire vos commentaires. Il y avait plusieurs questions qui se posaient en même temps. On peut aimer, on peut ne pas aimer le maire Marchand, mais il respecte toujours son engagement de venir s'installer avec nous autres et de venir répondre aux questions.
Une autre affaire, puis il l'a mentionné vers la fin de l'entrevue, ce qu'on peut saluer aussi de Bruno Marchand, à aimer ou pas ses idées, là, on le sait où est-ce qu'il en va. Là. On le sait, puis il dit, moi j'ai présenté mes idées, vous pouvez penser que c'est un bon projet ou pas, mais au moins vous le savez, ça a été la même affaire que le tramway. On sait où est-ce qu'il s'en va, Bruno Marchand. Puis on a le choix d'être d'accord ou pas.
En pleine pré-campagne électorale, vos commentaires, vos observations, 418-971-1021 sur le texto. On fait un petit croche dans la circulation?
Ah, il y a quelques textos qui sont entrés à cet effet-là en plus. Comment on va faire, M. Marchand, pour régler les problèmes de trafic? C'est toujours une question qui revient. Beaucoup de choses à mentionner en ce moment.
On va prendre l'autobus.
Oui, c'est ça. Henri IV-Sud, entre Chauveau et la rue Jean-Marchand, il y a des débris dans la voie, donc prudence si vous y êtes. Peut-être continuer en vous disant que la capitale, direction Est, entre Henri IV et Laurentienne, toujours aussi difficile. Ouest, ça commence à s'évaporer un peu, mais il y a encore un petit ralentissement à la hauteur de Laurentienne. Si vous êtes sur Robert Bourassa, direction
pas
Nord,
pareil,
entre,
ça.
Non, c'est ça, entre Wilfrid Hamel et la capitale, au ralenti. Henri IV Sud, il y a des problèmes de charret au pont. Si vous êtes sur Duplessis Sud, c'est à peu près de chemin Sainte-Foy au pont que ça congestionne. Henri IV Nord, ralentissement inhabituel entre chemin Sainte-Foy et la capitale au moment où on se parle. Toujours difficile en passant dans le coin de Shannon devant la base militaire. Route de la Bravo dans les deux directions. Toujours aussi compliqué aussi sur route de Fossambeau entre route des Érables et la route de la Jacques-Cartier. Si je traverse sur la rive sud, il y a de bons problèmes en ce moment sur la 20 Ouest entre la route du président Kennedy et chemin des Îles. Quelques problèmes également sur Guillaume Couture là, dans les deux directions, juste avant le chemin du Sceau. Évidemment, il y a quoi que ce soit d'autre. Ça passe par le 418-971-1021. Texto. Gravel.